Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir William Criégel. Salut William.
Bonjour Mathieu.
Je suis donc enchanté parce que je te disais à l'instant que j'avais dévoré ton bouquin à mon allure, donc chez Actes Sud. Et vraiment, j'ai découvert un autre univers du business, peut-être en partie un peu d'un ancien temps, mais aussi je pense qu'il y a une sorte d'héritage très intéressant et toute cette période, notamment Jean-Marie Messier, on en parlera tout à l'heure, et puis après l'autre partie de ta vie professionnelle autour du cheval, c'est deux aventures absolument fantastiques avec plein de petites choses dont on va parler. Je compte bien te parler de road trip en moto, je compte bien parler de plein de choses, mais avant tout ça, William, est-ce que je peux te demander de te présenter?
Avec plaisir. Donc, je m'appelle William Criégel, je suis né en 1945 en France, donc je suis français, binational maintenant, franco-américain. J'ai d'abord fait une carrière dans l'immobilier grâce à mon père, à qui je suis reconnaissant, pour ensuite évoluer dans la production indépendante d'électricité en France d'abord et aux États-Unis après, où je me suis installé en 1984.
Et alors, si je remonte un peu dans ce que j'ai lu dans le bouquin, T'as pas commencé de manière très facile dans la vie pour plusieurs raisons, hein. Capacité et physique, et même tu parles un peu de pas forcément facilité intellectuelle ou en tout cas de petites problématiques de concentration et notamment de dyslexie.
En fait, enfant, j'étais un enfant sans intérêt, mais sûrement charmant, mais sans intérêt, et pas très bon nulle part. À l'âge de 11 ans, la maladie m'a attrapé, ce qui m'a déscolarisé pendant 4 ans. Donc de 11 ans à 15 ans environ, j'ai pas du tout été à l'école. Bon, ça fait des complications, hein. Et en plus de pas aller à l'école, j'avais appris à lire et à écrire quand même, mais j'avais mon mode de fonctionnement intellectuel et la manière dont mes neurones sont organisés me donne pas du tout une plateforme académique ou une capacité académique. Donc je n'ai jamais réussi à passer un diplôme de ma vie à part mon permis de conduire, et encore je me suis fait aider par mon frère aux États-Unis que je parlais pas encore en anglais. Et donc l'académique est pas mon domaine, ou c'est pas ma capacité d'apprentissage.
Et ça t'a jamais plombé, je veux dire, tu t'es jamais dit ça va m'empêcher de faire quoi que ce soit?
Alors, je me suis dit que ma vie va devenir difficile quand j'étais enfant et malade, parce que je me sentais retenu physiquement dans une capacité de mouvement normale et sociale. Parce que t'en pas scolarisé, ben t'as pas beaucoup de copains, enfin tu perds beaucoup de choses. Donc j'étais assez inquiet de ça. Et assez rapidement, quand j'ai décidé que la maladie pouvait pas diriger ma vie ou m'organiser ma vie, j'ai décidé que je ferais ce que je veux.
Parce que, en effet, si je reviens dans pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, on parle quand même d'un temps où quand t'es pas scolarisé et que tu restes chez toi, il y a pas d'internet évidemment, il y a pas de téléphone, t'as peut-être des journaux, des bouquins, non, quand t'es badé, mais
t'as les livres, et puis ça s'arrête à peu près là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le cheval.
Ouais. Donc ça, c'était déjà dans le cheval.
Je suis tombé dans le cheval au moment de ma maladie. Pour une raison quelconque dont je me rappelle pas, j'ai voulu faire du cheval. Me demande pas pourquoi, je sais pas. J'ai dit à ma mère, je vais faire du cheval. Mon père aussi. Ils m'ont dit, mais vu ta maladie, c'est pas possible. Mais ils ont quand même été voir un toubib qui me soignait ou qui essayait de me soigner. Et le toubib a dit, faut bien qu'il fasse quelque chose, pourquoi pas. Non, aussi bête que ça. Je me suis retrouvé donc aller dans un petit club hippique à Auxerre dans Lyon tous les jours et monter tous les jours une heure à cheval.
Qui est devenu ta soupape, ton espèce de...
Ah, c'est devenu plus que ça, c'est devenu mon éducateur.
D'accord.
Et j'emploie le terme d'éducateur avec beaucoup de conscience et d'intention. C'est qu'en fait, le cheval m'a appris plein de choses. Il m'a appris d'abord que cet animal puissant et magnifique pouvait être monté par un jeune gamin de 11, 12 ans, 13 ans, qui était pas bien dans ses pompes et malade, et faire des vraies choses. Donc il y a une vraie noblesse. Ça me donnait la capacité d'être en rapport de force avec quelque chose de bien plus grand que moi, bien plus beau que moi et bien plus riche que moi. Et
donc ça, tu l'as pas réalisé après coup, tu le réalisais sur le moment?
Sur le moment, je sais pas ce que j'ai réalisé, pour être très franc. Tout ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais le cheval, que c'était la seule chose qui m'intéressait, que je voulais monter dessus et avancer. Je cherchais pas du tout à travailler à pied, à le nettoyer, à le caresser. C'était pas mon souci. J'étais vraiment avec le cheval puissance, animal, qui est très très différent du cheval affectif, si tu veux. Mais j'avais de l'affection, mais j'étais très respectueux. Et j'avais un maître de manège qui s'appelait Marignan, retraité du cadre noir. Donc déjà, c'est un officier à la retraite s'appelle Marignan. C'est déjà tout un programme.
Tu m'étonnes.
Et ce type qui était très généreux, bien que très raide, m'a beaucoup beaucoup appris. Il m'a appris d'abord l'équitation.
Quand tu dis très raide, c'est...
Raide dans ses bons, dans ses ponts, un militaire.
Ouais, donc, d'accord. Il n'était pas là pour déconner.
Non, et puis quand il disait on fait blanc, on faisait blanc. Il n'y avait, avait pas de négociation. Oui. Et je me rappelle d'un incident qui était assez significatif de cette période de ma vie. Il avait des chevaux de la retraite du cadre noir, donc il avait des chevaux qui savaient se cabrer, et pour faire des cabres, c'était très joli. Et moi, je faisais des choses comme ça. Et puis un jour, je suis dans le manège avec un cheval, tout seul, tranquille, et je cabre mon cheval, je fais une connerie, je tire un peu trop, et paf, le cheval tombe à la renverse sur mon, sur moi dessous, lui dessus. Je me fais une peur, mais une peur de gamin.
Ouais.
Et au lieu de réagir avec sang-froid, je me remets sur mes deux pieds, je prends mon vélo, j'abandonne le cheval, j'abandonne tout et je rentre chez ma grand-mère, qui était à 1,5 km de là. Terrifié. Et je suis dans le jardin, tremblotant, enfin voilà. Et je vois Marignan arrivant sur une petite meupette orange, motobécane, je crois, qui arrive comme ça, et qui me dit, bon, William, je pense que tu as dû laisser ton cheval dans le manège, tu viens avec moi. C'est pas un autre mot, pas rien, pas d'élever, sans élever le ton. Je retourne au manège, le cheval était encore là, bien entendu, il l'avait débridé, il le rebride, il dit, maintenant tu recommences. Je refais l'exercice, je le fais bien, bien entendu. Et après, il me dit, ben, écoute, la prochaine fois, si t'as ce genre de problème, viens me voir, ou, mais n'abandonne pas ton cheval. C'est vraiment des leçons de vie, quoi. C'est des leçons magiques, extraordinaires. Alors, c'est un incident spécifique, mais c'est une attitude et c'est une manière de regarder la vie en face et que, quoi qu'il arrive, on doit remonter sur son cheval et on n'abandonne pas.
C'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est, alors le cheval et je pense la relation au sport, alors qui plus est à l'animal, c'est quelque chose de, d'assez important et qu'a je pense j'ai l'impression suivi
Ben, le cheval m'a beaucoup donné et j'essaie de lui rendre quoi.
Et on viendra justement comment avec une approche très différente de ce qui se faisait en France en tout cas quand tu es revenu et le natural horsemanship on dit hein, c'est ça donc bien, l'équitation naturelle on y viendra sur ce que tu as créé à la Sens et tout ça. Si je te lis un passage parce que tu as parlé de ton père, alors je crois que d'ailleurs tu as même pas nécessairement fini tes études hein, c'est ce que tu disais
j'ai pas. Alors, en fait, je suis revenu donc chez mes parents après cette période de 3-4 ans.
Oui.
Là, ils m'ont remis dans des écoles, mais sans beaucoup de succès. En troisième, j'ai arrêté parce que j'avais aucune chance d'arriver au bac ou quoi que ce soit. Et ils m'ont trouvé une petite école de commerce dans laquelle je suis rentré parce qu'au niveau de la troisième, on pouvait y rentrer.
D'accord. Et donc, du coup, tu as avancé là-dedans et tu t'es mis à bosser avec ton père assez tôt.
Ouais, enfin, j'avais 27 ans quand je me suis mis à bosser avec lui, donc d'accord. C'est pas si tôt que ça.
D'accord, et entre-temps, t'as pris ton temps, du coup.
Ben, c'est pas que j'ai pris mon temps, j'ai pas fait du cheval. Parce qu'en fait, quand j'ai quitté Auxerre, j'ai quitté le cheval, parce que le cheval est resté là-bas, et qu'à Paris, c'était pas dans les choses, dans le domaine du possible. Mais j'ai voulu vivre.
D'accord.
Donc mon souci, c'était qu'est-ce que je peux faire, comment je peux vivre ma vie, et comment je peux exister. Et mon premier problème a été d'être aventurier, c'est-à-dire de voyager. J'emploie le mot aventurier parce que j'aime bien donner au voyage une connotation, on peut être voyageur géographique, on peut être voyageur humanitaire, on peut être voyageur, tout ce qu'on veut. Donc pour moi, mon souci, c'était de faire des voyages qui m'intéressaient et qui relevaient de l'aventure. Donc là, un de mes premiers voyages a été de descendre à Marseille à pied. Bon, je suis parti avec un baluchon de Paris et je suis allé jusqu'à Marseille à pied. Bon, j'avais un franc par jour à l'époque.
Et à pied, c'est du stop quand même ou
non,
c'est...
non, à pied, à pied.
À pied.
Non, non, à pied. J'ai fait les 900 km ou je sais pas combien, à pied, j'ai pas triché.
Tu dormais dehors?
Oui, dormais à la Belle Étoile ou dormais dans les granges ou dormais à droite à gauche, oui. Oui, parce que balader un sac à dos, c'est déjà lourd. Balader une tente, c'est encore plus lourd. Enfin, donc, faut être pragmatique, t'as pas besoin de tout ça, quoi.
Et donc, quand tu fais ça, t'es tout seul?
Ouais.
Tu rencontres des gens qui font pareil ou
tu rencontres pas des gens qui font pareil, mais tu rencontres des gens. Les voyages sont extraordinaires. Quand tu voyages seul, il y a une chose qui est magique, c'est que tu augmentes ta rencontre avec les autres.
C'est fantastique. Ça, j'avoue que je suis.
Et rencontrer les autres, c'est quand même un des éléments déterminants du voyage. Le voyage, c'est pas uniquement un aspect j'ai conquéré une montagne, j'ai traversé un océan, ce que je trouve très brillant et très très bien. Il y a un aspect culturel, il y a un aspect émotionnel, puis il y a un aspect humanitaire. En fait, tu rencontres des gens. Et quand tu rencontres des gens, ça te force d'abord à te positionner physiquement et moralement vis-à-vis de ces gens-là avec respect, parce que t'es chez eux. En fait, c'est toi le touriste, c'est pas eux. D'accord? Ils sont eux chez eux, et donc tu pénètres leur territoire.
Oui.
Quand tu pénètres le territoire de quelqu'un, ben, tu demandes la permission ou tu as une attitude telle que c'est pas une intrusion. Tu traverses un village dans une zone désertique avec une moto, ce que j'ai fait, à fond la caisse, t'es un sauvage. D'abord, t'es en intrusion, t'es un sauvage et t'es violent. Si tu roules tout doucement et que avant t'as traversé un bon bout de désert bien difficile, les locaux, ils savent. Les bédouins, ils savent. Et donc, ils ont une forme de respect intrinsèque. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'il fait là avec sa moto? On sait pas, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu respectes leur territoire, leur domaine. Donc, respecter la zone de l'autre est très, très important.
Je partage complètement. J'ai eu la chance, un peu par hasard ou dépit, de faire deux, trois voyages seuls. Notamment parce que pendant longtemps je voulais voyager et que tous les ans mes potes me laissaient tomber au dernier moment quand il fallait acheter les billets. Donc un jour j'ai acheté un billet, je me suis dit ils vont suivre après, personne n'a suivi, donc je suis parti tout seul et je suis parti comme ça en Indonésie à la toute fin de mes études pendant quelques mois. Et en fait c'était fantastique parce qu'en effet les rencontres sont plus faciles, parce que déjà quand t'es tout seul, en fait quand t'es à deux les gens viennent pas forcément te parler, quand t'es tout seul
ils viennent beaucoup plus facilement,
ouais. Après, quand t'es tout seul, tu choisis ton agenda. C'est-à-dire que tu peux dire aussi à un moment, je pars, je veux partir. T'es dans un groupe, tu veux aller dans un autre, tu fais une autre rencontre, tu changes, etc. Donc, tu peux pas papillonner réellement. Ouais. Et ça, c'est assez, en termes de liberté, assez fantastique. Et j'avoue que je trouve ça assez drôle. Ce qui est singulier et très original, je pense, dans ce que tu dis, c'est traverser la France. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, on se dit, je veux voyager. Quand tu m'en as parlé, et en fait, je crois que tu en parles rapidement dans son bouquin, ça m'avait déjà perturbé. Mais quand on dit je veux voyager, on pense tout de suite à l'Australie, quoi. J'exagère un peu, mais
loin,
voilà, on va loin. Alors qu'en fait, voyager, partir de Paris, aller jusqu'à Marseille à pied, c'est un voyage extraordinaire, j'imagine, dans le sens littéral du terme, extraordinaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je me pose la question, si tu pars tout seul à pied comme ça, je pense que les gens qui te voient débarquer tout seul à pied, ils se disent, mais
regarde,
il est louche celui-là. Non, tu vois, peut-être.
Je pense pas ça du tout. Regarde Axel Kahn, il traverse la France en diagonale deux fois ou trois fois. Il écrit des bouquins intéressants, sympas. Il a la rencontre des gens.
Ouais.
Et c'est pas un aventurier au sens, physique du terme.
C'est sûr.
Il y a plein de gens qui font des choses comme ça. En fait, quand tu voyages seul, t'as une chance de se retrouver en face de toi-même.
Ouais, je suis d'accord.
Donc déjà, ça, c'est pas nécessairement rassurant parce que toi-même, c'est pas toujours simple. Mais au moins, t'as une pause dans ta vie et dans ta réflexion. Après, tu choisis tes rythmes. Est-ce que tu veux faire 20 km par jour, 30 km par jour, 40 km par jour? Ça modifie tes rythmes. C'est pas bien ou mal, c'est que c'est des rythmes différents.
C'est vrai.
Et que ça te contraint différemment. Donc, moi j'étais à peu près à 35 km jour, donc tu vois, c'était un rythme moyen, mais c'était un vrai rythme, hein. Le soir je dormais bien.
Oui, c'est sûr.
Alors t'emmènes un bon bouquin que t'essayes de lire, ou j'avais emmené un bouquin de La Rochefoucauld, j'arrivais rien compris. Le truc m'a complètement dépassé et je pensais que c'était brillant et intelligent et honnêtement j'ai rien compris. Mais ça n'a pas d'importance, que tu rentres dans la nature, tu as les odeurs, tu as la pluie, le soleil, tu as tout ça, tout est à toi et il n'y a pas de contrainte si tu veux. Tu sais que le soir tu trouveras une solution, tu t'inquiètes pas, et tu t'inquiètes à partir de 5h du soir, 6h du soir, pas avant.
C'est intéressant et j'avoue que ça donne très envie. Du coup, ça fout en l'air la question que j'allais te poser quand tu me disais que tu avais beaucoup voyagé, c'est comment tu finançais ça? Mais tu n'avais pas besoin de finances puisque tu dépensais rien, en fait.
Je ne dépensais pas. J'ai voyagé sans argent pendant très longtemps, jusqu'en 1971, où j'ai fait le tour de la mer Rouge en moto, et là, je me suis fait sponsoriser.
D'accord.
Donc ça, c'est une autre aventure. Mais tous mes autres voyages, je les ai faits sans dessous. Et dans mon esprit, partir sans argent, c'était une autre manière de m'obliger à m'intégrer dans les sociétés locales, dans les villages. Tu voyages, t'es dans un village, t'as pas d'argent, ben faut que tu trouves une solution. Tu vas pas acheter quelque chose.
Donc tu files un coup de main à quelqu'un qui en échange.
J'ai jamais travaillé pour être franc avec toi. J'ai jamais travaillé. Par contre, je rencontrais des gens. Les gens sont hospitaliers. S'ils se sentent un peu décontractés, ils t'offrent un café. Puis ils disent où tu couches.
Il y a des moments où t'avais faim, du coup.
Non.
Non.
Non, jamais souffert de la faim ni quoi que ce soit. Toujours, non.
Toujours débrouillé.
Oui. Oui, puis sans. Alors, j'ai aucune mémoire d'angoisse, de faim, de pas dormir, un truc comme ça.
De peur.
Non, j'ai une fois ou deux, j'étais un peu inquiet parce que je suis tombé sur des situations ponctuelles un peu désagréables. Une fois en Turquie, j'étais avec une copine qui était, bon, on dormait dehors et un espèce de grand gaillard qui devait faire au moins 3 mètres, j'en sais rien, mais qui est venu et qui voulait la fille, quoi. Bon, ça pose un problème technique quand même.
Ouais,
Donc ça a duré un long moment, j'ai réussi à m'en sortir, il est parti, bon.
Mais ça, elle aussi.
Elle s'en est sortie aussi, oui. Bien sûr. Non, c'est pas sorti, ça n'était pas sorti. Mais alors ça, si tu veux, c'est une situation difficile. Et puis c'était pas ma sécurité qui était en cause, c'est la sienne. Donc ça, tu te sens une responsabilité. Tu vois, c'est pas facile à gérer. Mais c'est arrivé une fois. Puis voilà. Donc c'est pas la fin du monde.
Tu racontes en effet quelques-unes de ces anecdotes dans À mon allure et. Et après, alors, t'as découvert un peu le monde du travail aux côtés de ton père, c'est ça? Tu le disais tout à l'heure.
En fait, j'ai commencé à travailler très tôt parce que je voulais être indépendant. Mmh. Mon souci, c'est pas de dire merci à mon père. J'adorais mon père et je voulais jamais recevoir quoi que ce soit de lui parce que je voulais être indépendant. Donc, qui m'aidait à aller à l'école quand j'étais planté et tout, ça c'est très très bien, j'ai beaucoup apprécié ça. Mais après, je voulais pas dire merci. Donc, j'ai toujours travaillé avec des petits jobs et des trucs comme ça pour me permettre d'être indépendant économiquement.
Mais alors, si je puis me permettre, tu t'es aussi foiré sur cette partie de indépendance par rapport à ton père, parce que je vois plusieurs préceptes qui viennent dans ton bouquin. En tout cas, je dis ça amicalement, évidemment, mais je me permets de lire deux trois petits passages. J'ai le goût de faire grand depuis que mon père m'a convaincu que c'était rarement plus compliqué que de voir petit ou moyen. Ou encore, tu dis, quand tu perds une affaire, tu ne sais pas encore que c'est une bonne nouvelle. Est un des préceptes que j'ai hérité de mon père. Il avait raison et je n'ai pas d'état d'âme sur les échecs. Ce sont de très bons professeurs. Et je pourrais en citer d'autres encore, mais j'ai l'impression vraiment que...
Alors en fait, si tu veux, en 71, je fais avec mon frère et un copain le tour de la mer Rouge en moto. Donc Paris, Koweït, par l'Irak. Ouais. Et on redescend par le Yémen, traversant toute l'Arabie Saoudite, le Soudan, l'Égypte, Bon.
Tu as 26 ans.
Quand je reviens de là, j'ai deux prises de conscience. D'abord, j'ai réussi mon réel, donc j'étais content. Comme j'avais plein de sponsors, c'était important parce que faut respecter ces gens qui donnent quelque chose, faut leur respecter. Et ensuite, c'était une très belle aventure, très riche. Mais quand je suis revenu, j'ai dit bon, je crois que j'ai pris conscience que chercher l'aventure pour me prouver que je pouvais faire des choses que je ne pensais pas pouvoir faire. Mais je me suis dit, ça ne mène nulle part. Ce qui est important, c'est est-ce que je peux vivre l'aventure? Est-ce que je dois être voyageur pour être aventurier? Est-ce que la vie peut pas être une aventure par elle-même? Et sur quel territoire je peux exprimer cette aventure? Alors moi, dans mes délires d'ado, je trouvais que les intellos, c'était des gens brillants, que les bourgeois, c'était pas très brillant, et que les gens qui écrivaient, qui peignaient, qui transmettaient cette main-là étaient des gens brillants. J'avais aucune chance et aucun talent pour ça, donc je savais que j'étais coincé, que j'avais aucune possibilité là. Donc j'ai cherché sur quel territoire je pourrais exprimer ma vie et vivre mon aventure, et je me suis dit, le monde des affaires, c'est un beau monde. Parce que mon père était dans l'affaire, c'est pas par mimétisme avec mon père, simplement ça m'a semblé un beau monde, parce qu'on construit des choses.
Ce qui n'est pas hyper français ou naturel comme réaction, je veux dire, tout ce que tu décris là, dire que l'univers artistique, les écrivains, et quand tu vas vers les intellectuels... Peut-être même, dans une certaine mesure, tout ce qui est maths, etc., c'est quelque chose de potentiellement brillant. Alors, peut-être moins aventurier les maths, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et le business, c'est quand même... on a un peu l'impression de se salir les mains.
Alors, d'abord, on n'a pas de se salir les mains pour faire du business. Par contre, si tu ne mets pas les mains à la pâte, tu es sûr de rien faire.
C'est sûr.
Bon, l'autre chose, c'est que... le business, en fait, ça peut être plein de choses différentes. Mmh. Tu peux être trader, tu construis pas grand-chose, tu trades, t'arbitres. Bon, c'est très bien, c'est un beau métier comme un autre, mais c'est pas un métier de constructeur. Pour moi, le business, c'est un métier de constructeur. Donc, tu construisais des choses. Et l'idée de construire m'a toujours beaucoup séduit. intuitivement et sans savoir, j'ai pas de rationnel particulier pour ça. Donc je me suis dit, si je rentre dans le business, je trouverai un terrain d'expression qui peut m'aller et je construirai des choses. Donc je suis parti comme ça. Et mon père, quand je reviens de la mer Rouge, me prend à part et me dit, écoute, t'as fait un très beau voyage, je te félicite, c'est très très bien, mais maintenant tu vas faire quoi? Ben, je dis, je réfléchis, il me dit, écoute, arrête tes conneries, t'as l'âge d'apprendre, t'as plus l'âge de tourner en rond, viens chez moi, travaille, je te fais partir en bas de l'escalier, je te fais monter, ben, tu monteras si t'es bon, je t'apprends un métier. Je dis, bon, d'accord, et donc je suis rentré chez lui comme négo de base, il était dans l'immobilier, comme négo de base pour vendre des appartements, je montais les 6 étages à pied pour aller vendre des appartements à des gens, des trucs comme ça, donc, et puis après je...
Donc lui il était marchand de biens, c'est ça, non?
Il était marchand de biens et promoteur.
Donc tu, la plupart du temps, soit tu récupérais des biens et que vous remettiez alors, à jour on faisait, et que tu revendais en dessous.
On faisait agence immobilière, donc il faut aller chercher des mandats, on faisait on achetait des immeubles anciens qu'on restaurait pour revendre, donc là c'est de la vente pure ou c'est de l'acquisition, et on faisait de la promotion, donc on faisait des immeubles.
Et tout ça essentiellement dans Paris?
Ouais.
D'accord.
Lui il faisait uniquement dans Paris, et donc j'ai travaillé pendant 7 ans avec lui. Et j'ai beaucoup appris, parce qu'il m'a beaucoup appris de choses, mais mon père était un type que j'aime beaucoup, mais qui n'était pas très facile, et surtout, comment dirais-je, je ne veux pas dire pas très éducateur, mais pas très éducateur quand même.
Il avait ça se comprend, je veux dire...
C'est un self-made man, il a une vie un peu complexe, et il avait le sentiment que ce qu'il faisait pas lui n'était pas bien fait. Et donc moi j'ai une relation de travail très intéressante avec lui, mais assez conflictuelle. Parce que je disais, moi c'est moi, toi c'est toi, et je veux rien à toi, enfin, etc. Donc
à peu près de 27 à 34 ans, c'est ça?
Oui, grosso modo, oui. Et en 78, on s'est séparés, enfin je suis parti.
Mais toutes ces années, juste pour rester là-dessus très, très rapidement, c'est déjà du gros business, je veux dire...
Au début, non, parce qu'au début, je faisais le vendeur d'appartements. Ouais. Mais après, j'ai monté dans des opérations d'affaires, j'ai monté des affaires complexes, j'ai monté plein de trucs. Donc je suis rentré très vite dans du business à dimensionner.
Et il a grossi avec toi ou...
Alors on a grossi. Alors non, il avait une affaire bien plus grosse que moi. Hein, ouais. Donc j'étais un petit élément de sa grosse affaire. Donc on a. Il m'a laissé grandir chez lui.
Mais t'as pas représenté chez lui un truc qui faisait que c'était.
Mais j'ai représenté des affaires marginales mais très grosses.
D'accord.
Et je suis pas rentré dans le système si tu veux. D'accord. Parce que j'aimais pas ses associés. Enfin bon, je trouvais qu'ils étaient pas très. Il m'allait pas, voilà.
Okay.
Donc je suis pas entré dans le système. En plus, j'étais assez rigide sur un certain nombre d'éléments comme ne pas faire d'argent occulte, des trucs comme ça, et que le système était pas fait comme ça à cette époque-là.
D'accord.
Moi, ça m'allait pas. Je considérais que c'était pas valorisant, si tu veux. Et donc je voulais pas le faire.
Et tu vivais pas de ton côté background un peu baroudeur et pas diplômé dans cet univers, il était pas c'était pas du tout un
l'immobilier, les diplômes ils s'en foutent, hein.
Ouais. Du moment que tu sais vendre, acheter, refaire, okay.
L'immobilier en fait c'est un assez joli métier parce que c'est un métier assez complet, il faut connaître un peu de droit, un peu de marketing, un peu de construction, un peu d'engineering, un peu d'architecture. Donc ça donne mais en même temps c'est pas un métier très très difficile.
Mais je te rejoins, c'est peut-être pas pour ça que, c'est parce que c'est pas très difficile, mais je te rejoins sur le côté beau métier. Moi, ici, on a refait entièrement, et puis je l'ai fait plusieurs fois, mais restructuré entièrement des bureaux, etc. Quand t'arrives dans un endroit qui est tout pourri et que tu repars ou que tu finis et que tu sors un truc qui est, moi, je suis très fier de mes bureaux et je trouve qu'on s'est vraiment arraché avec mes associés là-dessus. Je veux dire, t'as une sorte de gratification extrême, quoi.
Oui, parce que tu concrétises quelque chose.
Ouais.
Tu prends quelque chose qui est jaune et ça devient vert à l'arrivée et c'est beau et tu le rends vivant si tu veux.
Et c'est vrai que le côté, je crois, vraiment constructeur, un jour faire sortir un immeuble du sol, ça devrait être quelque chose d'assez trippant. Et d'accord. Et donc tu as fait un peu bande à part, je crois, c'est ça à la fin?
Bah à la fin, si tu veux, j'ai décidé que je voulais grandir, donc je voulais faire des choses différentes et je me suis orienté de plus en plus sur des aspects plus conceptuels de l'immobilier que des aspects plus transactionnels. Donc j'ai cherché à faire des choses plus conceptuelles et là mon père il disait pas non mais il me suivait pas vraiment. Donc j'ai décidé d'aller me mettre à mon compte et je voulais me mettre à mon compte. Donc je suis parti en 78, j'ai quitté. J'ai invité à déjeuner, je me rappelle de ça comme hier, c'était drôle. J'ai invité à déjeuner au Crayon, donc c'était très bien. Et il me dit, qu'est-ce que tu me veux? Je ne faisais jamais ça. Ça ne correspond pas du tout à notre mode de fonctionnement. Ben, je lui dis, voilà, je voulais dire que j'ai pris mon héritage, parce que j'ai appris, j'ai pas d'argent, mais j'ai beaucoup appris. Et je te remercie, et maintenant je m'en vais. Il était furieux, il ne m'a pas causé pendant un an. Il me dit, t'es un sale con. Quand il a compris que j'étais sérieux, il me dit, t'es un sale con. Tu aurais jamais dû partir, tu devrais rester et prendre ma suite, etc.
Il voulait que tu prennes sa suite.
Et j'ai dit, non, c'est pas mon truc, je veux pas ça. Et donc, pendant un an, il m'a pas causé. Mais c'était pas on n'était pas fâché, il était.
Vexé, ouais.
Vexé, voilà. Ouais. Vexé, un peu confus, un peu triste, oui.
Ah, c'est marrant. C'est vrai que c'est le côté un peu dynastie. Je pense que quand tu crées un truc comme ça, t'as envie que quelqu'un prenne la relève, quelqu'un de confiance.
Oui.
Quelqu'un,
ouais. C'est pas sûr que c'est toujours une bonne idée, mais c'est souvent, c'est dans la culture, en plus.
Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, quand tu dis faire des choses plus originales, ou c'était quoi, du coup?
À l'époque, comme j'avais inventé un produit financier, à partir d'appartements occupés. Tu vois, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, parce que c'est peut-être un peu con.
Vas-y. En deux mots.
La loi de 1948 avait réglementé les loyers.
Donc, il y avait des
vieux immeubles dans Paris qui étaient avec des appartements occupés où on pouvait pas sortir les gens. Le métier de marchand de biens consistait à acheter ces immeubles-là, sortir les gens tant bien que mal, avec un chèque ou je sais pas quoi, et puis après revendre. Mmh. Et moi, l'idée de faire ça m'allait bien, mais sortir les gens m'allait pas du tout. Donc j'avais été inventer un produit financier qui était que, j'avais acheté une assurance vie chez Drouot sur le fait que l'appartement se libérait pas. Donc si l'appartement restait occupé, l'assurance vie était payée. Si l'appartement se libérait, l'assurance vie n'était pas payée. Donc je n'avais aucune incentive à libérer l'appartement.
Donc c'était statistique comme approche ?
C'était statistique et c'était comme une assurance.
Ouais,
donc
d'accord.
Si tu veux, j'avais souscrit chez Drouot un contrat d'assurance. Et donc je vendais des appartements avec le contrat d'assurance et à des investisseurs. Et ces investisseurs avaient économiquement plus d'intérêt à garder l'appartement avec l'occupant que à sortir l'occupant.
Mmh, d'accord.
Et donc, ça m'a fait un produit financier original. Donc, j'ai négocié Exclusivité qui m'a fait ma plateforme de lancement pour me mettre à mon compte.
Et ce qu'il y a là-dessus, je crois, tu t'es mis à acheter quasiment des blocs entiers, si on peut parler de blocs comme aux États-Unis.
Oui, parce que c'est toujours la même histoire. Les banques te font confiance tant qu'elles pensent qu'elles peuvent te faire confiance. Mais après, quand tu mets le doigt dans l'engrenage, elles disent au début, OK, on vous fait confiance, l'idée est intéressante. Mais maintenant, il faut voir si ça marche. Et ça prend 2 ans.
Mmh.
Donc, connaissant ça, j'avais acheté 6 ou 7 immeubles et groupes d'immeubles en même temps, en parallèle avec différentes banques, pour mettre tout le monde sur le même train de départ.
Mmh.
Et ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite et de faire grand dès le départ, si tu veux.
Fantastique. Et du coup, après, tu as renégocié avec... à la fin, l'idée, c'est aussi de pouvoir renégocier avec la banque qui donne les meilleurs taux
Non,
tu continues de front avec les 6-7
Le taux, c'est pas le débat.
Ouais.
C'est l'argent qui est le débat.
Ouais, ouais.
Et non, l'enjeu est pas très compliqué. L'enjeu, c'est que tu conceptualises ton produit financier, tu cherches à vendre des appartements à des investisseurs, qui sont des investisseurs financiers et pas des investisseurs proactifs, si tu
D'accord.
veux, et tu leur vends un produit financier.
Ouais, donc eux, ils achètent sur X années, ils savent combien ils vont gagner. Et puis,
ils savent combien, ils ont une sécurité avec la garantie de l'assurance, et puis voilà.
D'accord.
Et donc, ça m'a permis de conceptualiser le métier de marchand de biens et de plus besoin d'avoir quelqu'un pour aller voir le locataire en disant, ma petite dame, il faudrait bien partir maintenant.
Ouais, ce qui n'était pas le côté le plus agréable, si je comprends bien. Et du coup, là-dessus, tu apprends tout ça, j'ai l'impression que tu as un peu coché la case. Mais... Et à un moment, tu t'es dit, bon, c'est bon, maintenant, je suis arrivé en haut de ma courbe d'expérience, je sais faire et je vais passer à autre chose.
Si tu veux, oui et non. J'ai voulu... ce produit financier n'a pas vécu longtemps parce qu'en fait, la compagnie d'assurance qui me l'avait donné me l'a enlevé.
D'accord.
Pour des raisons qui n'ont aucun intérêt. J'ai cherché à faire des développements sur les quartiers historiques de Bordeaux en rénovation de bâtiments, loi Malraux. Bon, ce produit financier de nouveau... Et à cette époque-là, je rencontre un copain qui me dit, dis donc, j'ai trouvé un truc vachement sympa. C'est une centrale hydroélectrique, ça fait 3 mégawatts, c'est tout petit. L'eau est gratuite, la centrale tourne tout seul, il n'y a pas d'employé, et le EDF achète le courant pendant 15 ans.
Donc voilà, on est d'accord, la centrale hydroélectrique, c'est une centrale qui produit de l'électricité grâce à l'eau.
À partir d'une petite chute d'eau.
C'est un barrage, forcément. S'il y a toujours un barrage.
Il y a toujours une forme de barrage.
Ouais, ouais.
Ça peut être il y a plein de formes de barrage, mais il y a nécessairement une chute. Il y a une verticale quelque part.
Et là, on arrive dans ta nouvelle future passion.
Là, je découvre ça. Et moi, je me dis, un truc où on a un immeuble. C'est pas un immeuble, mais c'est une usine qui produit. Il n'y a pas d'ouvriers. Il y a un contrat de vente du courant pendant 15 ans. Dis-moi, ça, j'ai bien compris. Parce qu'avec un contrat de vente du courant, tu peux préfinancer. Et après, c'est tout un problème d'organisation. Donc, j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis intéressé au sujet. Et
la centrale existait, celle-là, déjà. Hein.
Oui, toute celle-là existait. Donc, on l'a construit, mais pas au début, elle existait.
Et pourquoi elle était à vendre?
Alors, en France, je crois qu'il y a 6 ou 7000 petites centrales comme ça qui produisent l'électricité.
Ah oui.
C'est un résidu de la nationalisation d'EDF à l'époque de Gaulle.
D'accord.
Quand ils ont nationalisé, ils ont laissé une petite frange de privatisation.
D'accord.
C'est un résidu. Bon. Et donc, je découvre ce métier que je trouve intéressant et assez fascinant et conceptuellement me séduisait parce que c'est un métier un peu financier. C'est un métier où tu continues à construire. C'est un métier de transaction et c'est un métier de long terme.
C'est aussi un métier industriel, quand même.
C'est un métier industriel. Donc ça, tout ça me plaisait bien. Donc on commence ça, j'ai un associé à cette époque-là, et on trouve une affaire un peu grosse à racheter, donc la négociation est compliquée, mais ça je te fais grâce de ça, et on a besoin d'un partenaire financier.
Oui, ça parce qu'à chaque fois, hein, tu vois sur des trucs quand même assez grands,
ouais.
Mais malgré tout ce que tu as fait avant, tu n'as pas forcément plein d'argent, enfin t'es pas...
Non,
tu n'arrives pas avec... t'es endetté.
Je suis endetté, oui.
D'accord.
Oui, parce que comme j'ai jamais demandé d'argent à personne et que mon père a eu l'intelligence de ne pas m'en donner, j'avais que deux solutions. Je faisais du levrage et je m'endettais ou j'avançais
d'accord.
pas.
D'accord.
Donc, non, je suis endetté. Bon, ça me gêne pas. Ça me...
Oui, non, mais ça te gêne pas, mais c'est quand même, ça montre quand même un état d'esprit. Ce que je veux dire, c'est que, à un moment, t'es déjà très endetté, et tu te dis, t'es déjà all-in, et tu te dis, allez, je remets une couche et je vais encore plus loin. Quoi.
Oui, parce que...
À 35 ans, 37 ans... Ouais.
Je vais te dire, en fait, c'est mon père qui m'a appris ça. Quand t'es pauvre, tu peux faire ce que tu veux parce que t'as rien à perdre. Alors, ça paraît un peu choquant comme phrase, et en réalité, bon, moi, je ne confonds pas la pauvreté, hein, mais quand t'as pas d'actifs et quand t'as pas trop de responsabilités familiales, qu'est-ce que t'as à perdre à prendre des risques?
Au pire, tu es endetté, quoi.
Puis, au pire, tu es endetté. Ouais. Et puis, c'est la vie. Puis, tu bosseras, puis tu paieras. De toute façon, j'ai su faire des dettes dans ma vie quand j'avais besoin. J'ai toujours payé toutes mes dettes.
Parce que c'est vrai que ça paraît un peu... Mais si on replace vraiment ça dans le contexte, t'as entre 30 et 40 ans et tu te dis, je vais me lancer dans l'électricité, je vais faire des centrales hydroélectriques. C'est quand même conséquent.
C'est
toujours pareil, tu le dis parce que toi c'est ta vie.
Ouais.
Tu le dis comme si c'était un petit truc normal. Il y a pas un moment, tu flippes pas à ce moment-là, tu te dis jamais.
Non, ça va.
Ça t'excite quoi.
Ça me plaît, oui, ça me plaît parce que je trouve ça intelligent.
Ok.
De quand tu vois quelque chose que tu trouves beau, t'as envie de le faire. Quand tu vois quelque chose que tu trouves intelligent, t'as envie de le faire. Après, la route pour y arriver n'est pas toujours évidente. Hein. Donc là, on s'est associé et la Banque Lazare nous a rejoint avec un peu de capital, venture capital. Et ça nous a mis le pied à l'étrier avec des groupes que je n'avais jamais connus avant. Rapidement, Lazare, on a grandi assez vite. Donc Lazare a dit, maintenant c'est l'heure de sortir. Et là, la compagnie, après tout un tas de transactions diverses et variées, la Compagnie Générale des Eaux est rentrée. La Compagnie Générale des Eaux, grande maison, noble.
La CGE, donc, qui est devenue Vivendi après. Hein,
c'est ça, voilà. Ouais. Bon. Et donc je me retrouve avec un vrai industriel. Et mon associé était polytechnicien, ce que je ne suis pas. Et donc, sur le plan de la Compagnie Générale des Eaux, c'est un club de polytechniciens à l'origine. De gens brillants, mais polytechniciens, quelques énarques, quelques mines, enfin bon.
Et on te regarde de haut, là? Ou t'as ce sentiment, ou même pas? Ou tu
choisis pas que t'es complexé? On me regarde pas beaucoup.
Ouais, d'accord.
Donc, mon associé étant polytechnicien, on le regarde.
Ouais.
Et sans lui, je serais jamais rentré là-dedans. Mais on me regarde pas beaucoup et j'ai pas un rôle effectif et ça me gêne un petit peu. Mais en même temps, je suis un pragmatique, donc je prends le temps. On avance un peu, ça se passe bien. Et assez rapidement, je prends conscience que le territoire économique des centrales hydroélectriques en France est tout petit, que mon associé a la main sur le sujet pour des raisons très très légitimes. Et que du coup, je vais me retrouver marginalisé de fait.
D'accord.
Ça m'agace. Et donc, je réfléchis et je dis, il faut que, ou je me trouve un territoire indépendant, ou que je raisonne autrement. Et là, je commence à regarder ce qui se passe hors France. Bon, l'Afrique, c'est pas un continent qui m'intéresse sur le plan de l'investissement long terme.
À cette époque-là, du moins, en tout cas.
Oui, enfin, c'était pas mon... Bon, l'Asie, ça n'existait pas à cette époque-là, enfin, on n'en parlait même pas. L'Europe, c'est que des régimes réglementés type EDF, etc. L'Espagne avait un peu d'ouverture, mais pas grand-chose de très séduisant ou pas facile à accéder. Oui. Et l'Amérique est en ouverture. Ah, l'Amérique, c'est beau. Ça, bon. Alors, et je dis, mais il faut explorer ça. Donc, je commence à regarder, à étudier, à chercher, essayer d'apprendre l'anglais, ce que je n'arrive pas bien à faire. Et assez rapidement, il m'a fallu un an, je prends conscience que l'Amérique est un pays d'aventure, mais c'est un pays dur, un pays froid.
Et quand tu étudies tout ça, tu y vas déjà? Tu fais des allers-retours?
Oui, je fais quelques allers-retours, essayer de comprendre et je ne comprends pas grand-chose, etc.
Et là, tu as déjà un peu d'argent, du coup, en vendant...
Non, là, je suis encore en dette.
D'accord.
Et en fait, j'emprunte de l'argent pour faire ces voyages exploratoires à la COFAS.
Ce qui existe toujours, d'ailleurs, hein, la COFAS. Ah, c'est intéressant aussi, ouais. Je crois que ça existe toujours. On oublie souvent de regarder ça, mais l'aide à l'exportation, etc., c'est un super truc.
Donc... très rapidement, je me dis, bon, il y a deux solutions. Ou je joue le jeu américain et je me déplace là-bas, je m'installe, j'émigre et je prends ma chance. Ou je le fais pas, puis on n'en parle plus, puis c'est tout, mais j'arriverai pas à le faire entre deux avions. Alors, je décide que je veux partir. J'essaie d'apprendre l'anglais, j'y arrive pas.
T'es marié, enfant, à l'époque?
Oui, j'ai 3 enfants.
D'accord.
Donc, je décide qu'il faut partir.
Pardon, pendant que tu réfléchis, mais ça me fait marrer parce que encore une fois, c'est une histoire que tu connais bien, mais quand tu la vois de l'extérieur, tu parles pas anglais, t'as une femme, des enfants, t'es en dette et tu te dis bon, allez, je pars aux États-Unis puis je vais faire du business dans l'électricité potentiellement.
En plus, je suis une femme et je suis en train de divorcer.
D'accord. Bon. Donc va
la complication totale.
Va convaincre tout ce monde-là. J'imagine que il faut avoir envie, quoi.
Alors, en fait, ce que j'ai fait, j'ai dit à accompagner les autres, je vais partir en Amérique, ouvrir l'Amérique. Ils m'ont dit, non, nous, on joue pas le jeu, on veut pas y aller, on vous fait pas confiance, mais gentiment, hein, avec beaucoup de politesse, on vous fait pas confiance, on n'y va pas. J'ai dit, ok, j'y vais à mes risques. Ils ont dit, vous faites ce que vous voulez. Et là, j'étais emmerdé parce que sans référence et sans rien dans les mains, c'est pas facile. Donc, je leur ai négocié qu'ils me donnent une lettre. Qui n'a aucune valeur juridique, d'intention en disant je serais intéressé à investir 100 millions de dollars, c'était le montant à l'époque, dans la production d'électricité indépendante. Mais intéressé, il y avait vraiment. Et je me suis servi de cette lettre-là comme porte d'entrée partout. Voilà. Donc j'ai fait ça, je me suis installé en 84, en avril, et j'ai emmené mes 3 enfants parce que
c'était. C'est intéressant, je veux dire, pardon, mais comme quoi cette marque d'intérêt, comme tu le dis, non engageante, a potentiellement changé ta vie.
Absolument, parce que j'ai transformé cette lettre en une espèce de carte de visite.
Ouais. Cachée, je suis sérieux. Très bien. Ouais.
Mais j'ai jamais menti. Hein.
Non, mais
j'ai jamais dit, ah ben oui, ils vont me payer, ils vont financer, ils vont pas financer. J'ai toujours dit, voilà, ils en volent, il faut que j'ai des projets.
Oui, après, ce sera à moi de les convaincre, mais ils sont intéressés.
Voilà.
Sachant que le seul truc que, ils n'étaient pas vraiment complètement intéressés, mais tu savais que toi, tu pourrais peut-être les convaincre quand même derrière.
Écoute, ils étaient suffisants. La vérité, c'est que j'aurais proposé. Donc, le deal qu'on a fait ensemble, on s'est serré la main, on n'a pas fait un contrat de 50 pages, c'est de dire je leur présente toutes les affaires et ils décident d'investir, pas investir.
Mais tu vois, là, je pense que la leçon qu'il faut en tirer de ça, c'est que souvent, quand tu demandes à quelqu'un une marque d'intérêt pour prouver quelque chose, hein, et que tout le monde te dit non, mais ça sert à rien, il n'y a aucun engagement là-dedans. Ben, c'est pas forcément vrai, parce que le fait que ce soit écrit et qu'il y ait quelque chose derrière, ça projette les gens autour de toi, tes interlocuteurs que tu vas voir, ceux que tu as déjà vus et qui sont engagés,
C'est une valeur, oui. Ouais. C'est une valeur réelle. C'est une valeur réelle. Donc, je pars avec ça, et le fond de l'histoire, c'est que je leur ai présenté toutes les opportunités que j'ai une par une. Je crois que sur ça a duré donc de 84 à 2000, ils n'en ont jamais refusé une. Et la première que je leur ai proposée faisait 1 million de dollars, qui me paraissait une somme considérable et colossale. Et c'est monté après à des sommes beaucoup plus importantes.
Sachant qu'il faut préciser hein, tous les détails que vous aurez donc à mon allure. Et voilà, mais tu es quand même devenu le plus gros producteur d'énergie indépendant, c'est ça, aux États-Unis ?
Alors, je suis devenu le deuxième ou troisième plus gros producteur indépendant.
Oui.
Mais pas uniquement avec de l'hydroélectrique, hein, avec du fuel de toute nature.
D'accord.
Du gaz, j'ai fait du charbon, ce qui est un gros mot aujourd'hui, mais c'était pas à l'époque. Du biofuel, j'ai fait plein de
choses. D'accord, tu es le premier sur l'hydroélectrique.
J'ai commencé avec l'hydroélectrique et après on a viré sur la cogénération gaz, puis après sur tous les fuels. Mais on est entre 84 où on est arrivé et l'an 2000 où on a vendu cette affaire, on est devenu le deuxième, troisième producteur indépendant américain.
Tu produisais 15% de l'énergie de Manhattan.
On produisait 15% de l'électricité de Manhattan, 30 ou 35% de celle de Boston, et l'ensemble des actifs d'usines dont étaient propriétaires et exploitants représentaient pas loin de 14 000 mégawatts. Alors un mégawatt, c'est, je ne sais pas ce que c'est qu'un mégawatt, mais 1000 mégawatts, c'est une centrale nucléaire.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Voilà. Donc si tu prends 14, donc c'est l'équivalent de 14 centrales nucléaires. Donc c'était vraiment significatif. Et on avait ça principalement aux États-Unis, mais en Chine, en Thaïlande, aux Philippines et en Corée.
Et ce qui est fou, c'est que vous avez développé une capacité... une forme d'usine à usine, parce que là, ça peut paraître long, de 84 à 2000, mais c'est quand même
court. C'est pas très long.
16 ans pour faire combien de
Je crois quand on est sorti, on avait 71 usines.
C'est incroyable. Ouais. Incroyable.
Il y en a qu'on a construit, il y en a qu'on a acheté. On a fait toutes les variations de la gamme.
Et tu dis dans ton bouquin le tour de, alors peut-être pas quand tu avais les 71, mais le tour de toutes tes usines plusieurs fois par an pendant un moment.
Alors je faisais régulièrement, je faisais quoi qu'il arrive, y compris quand il y avait 71, une fois par an, je faisais les budgets dans les usines. Parce que je considère que c'est au siège social de se rendre sur le terrain et non pas au terrain de se rendre au siège social, et que si l'usine marche bien, c'est parce qu'elle a été bien conçue par des équipes, mais qu'elle est bien exploitée. En fait, une usine, c'est un truc très étonnant pour moi qui ne sais pas ce que c'est. C'est que c'est plein de moteurs, c'est plein de ficelles électriques, c'est plein de tuyaux sous pression. Il y a de la haute pression en vapeur, etc. Il y a du gaz. Mais quand tu regardes ça, ça ne devrait jamais marcher. Sur une usine, tu as 200-300 pompes. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a toujours pas une toujours qui est en panne? Tu vois?
Et c'est ce que tu dis, hein, c'est vraiment une des forces que tu as créées. Donc cette société s'appelait Site,
oui.
S-I-T-H-E.
Oui.
C'était plus que de la Ferrari, c'était presque plutôt de la Mercedes, ou je sais pas, un truc qui lâchait, de la Porsche,
en fait, si tu veux, on avait quelques grands principes de base. D'abord, on essayait de structurer nos affaires intelligemment, et on avait comme contrainte de les rendre finançables. Parce que j'avais pas pris l'habitude d'aller voir la compagnie générale des eaux en disant, ben voilà, on en fait une à 300 millions de dollars, faites-moi un chèque. Ça, c'est pas une bonne idée, ça. Donc, on faisait du financement sur le marché américain. Donc, on a fait des financements non-recourse, c'est-à-dire sans garantie bilancielle, uniquement avec la garantie des actifs. On en a fait, des montants considérables, des milliards de dollars. Donc ça, c'était mon premier garde-fou, c'est si le projet est finançable par les banques, qui en prennent le risque. C'est peut-être pas si bête que ça. L'autre aspect, c'était que c'est Dejoigny qui m'a appris ça, c'est que ce qui est important quand on est un industriel, c'est ce qu'on produit tous les jours. Et la production, c'est pas tous les jours, c'est toutes les minutes. Et quand tu regardes une usine, ben il y a 8300 quelques heures dans l'année, elle a un temps d'arrêt obligatoire pour faire la maintenance préventive, mettre un peu d'huile dans les trucs, etc. Mais ce temps est très réduit, et après, tout le reste, c'est des temps aléatoires qui sont dus à des pépins. Donc, ta production réelle, c'est l'année totale, moins le temps prévisionnel, moins les pépins. Moins les pépins, d'accord ? Quand tu veux mesurer ta performance, tu fais un truc très très bête, tu dis voilà, quel est le temps réel de production que j'ai eu sur l'année. Et en moyenne, dans l'ensemble de nos usines, on était à 95,6%, 96%.
Alors que tes concurrents étaient mais très nettement de ça, hein, je crois. Ouais. Hein.
Alors, ça tient à quoi ? Ça tient d'abord, on essayait de construire des usines bien faites, et on prenait pas trop de risques technologiques, on cherchait des choses prouvées, des choses que marchent. Ensuite, j'arrivais à marier les équipes de conception technique d'ingénieurs et les équipes de développeurs, à les forcer à travailler ensemble pour que l'un, etc. Et j'amenais l'exploitant au début de la conception du projet. Ça veut dire que je payais un directeur d'exploitation dès le début du projet, avant même que je sois sûr de l'avoir. de telle sorte que quand il héritait de son usine, il pouvait pas dire ah ouais votre truc c'est mal fait, oui, ils ont pas pensé à ça, je sais pas quoi. Donc, il y avait un effet de synergie entre les talents qui a très bien marché. Et l'autre problème, c'est que chercher la stimulation, parce que c'est un peu comme un sport. Hein. Donc on a très très tôt commencé des systèmes avec le fax à l'époque, parce que c'est tout ce qu'il y avait. Quand une usine avait une panne quelconque, elle faisait un fax à toutes les autres usines. Minuit 2, il y a une panne de ça, ou de ce que je sais pas quoi. Et après, il renvoyait un fax, minuit 12, j'ai réparé, c'est reparti. Et entre-temps, les autres équipes avaient l'obligation morale et sportive, entre guillemets, de dire « j'ai eu la même panne, tu fais ça » ou « bravo, t'es bien revenu vite » ou « qu'est-ce qui se passe ?»
Oui, ou « j'ai appris pour une future panne » ou voilà, « je corrige appris, si j'aime pour éviter une future panne »
oui. Donc on avait toutes nos usines en syndication comme ça et les types se parlaient et donc on arrivait à des taux de réactivité très très rapides.
Et je vais dire un truc qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as dit, mais qui est aussi lié et à toute la partie humaine dont tu parles là, en fait. Hein. Des plantes, des arbres, des fleurs et du gazon. On soigne les abords immédiats de l'usine. Puisqu'elle est belle, on l'ouvre régulièrement à la communauté alentour. Et Dieu sait combien la communauté est une notion importante aux États-Unis. On propose des visites aux écoles. On invite les familles pour le summer barbecue et le Christmas tree. Les familles sont fières de leur père, de leur frère, de leur mec. Et quand on sonne l'alerte à 2h du matin, personne ne fait de la gueule à l'ouvrier, au contremaître, à l'ingénieur qui fonce à l'usine. Tout cela coûte un peu cher, mais c'est marginal au regard du budget de fonctionnement de l'usine et surtout du bien-être social et de la performance qu'il engendre. Je n'ai jamais connu de grève. Donc que ce soit aussi au niveau humain et au niveau... c'est hyper important. Et j'avoue que c'est très vertueux, en fait, comme approche. C'est-à-dire que tout le monde est fier, vit dans un cadre... là, ce dont je parle pas dans ce passage, mais dont tu parles à d'autres moments, c'est aussi la propreté exacerbée
des usines. Une usine, c'est un bateau.
Oui.
Une usine, c'est un bateau
militaire.
Un sous-marin nucléaire, voilà. Ouais. Il y avait pour à peu près 20% de mes exploitants étaient des anciens des sous-marins nucléaires américains. Ingénieurs de très grande qualité, sang-froid... imperturbable, sympa, bon leader et
exigeant
et tu nettoies tout le temps. Quand je visite une usine, ce que je fais, je mets mon doigt sur le tuyau, si mon doigt est sale, je fais la gueule.
Et d'ailleurs, à la fin, ton doigt n'était jamais sale, j'imagine, du coup.
Non, parce que c'est une culture, mais c'est pas la mienne, c'est la leur.
Ouais.
Et l'autre problème, c'est quand tu peins le sol d'une usine, tu la peins en une couleur, un époxy, je sais pas quoi, généralement gris, quand il y a une goutte d'huile qui tombe d'un tuyau en haut, bah, tu le vois tout de suite. Si par terre c'est d'un ciment dégueulasse, tu vois pas. Donc il y a un effet vertueux, si tu veux, et tout le monde est fier de son ouvrage.
Non, ça, je suis d'accord. Toutes les usines, les exploitations agricoles, les endroits qui sont très bien tenus, ça, au-delà du signe, hein, signe réel, c'est un vrai outil et quelque chose d'important qui montre et démontre probablement la manière dont tout est géré derrière. Si je reviens, avant d'aller un tout petit peu de l'avant sur la sens et les chevaux, un tout petit peu en arrière et parler de ta première usine centrale hydroélectrique que tu construis. Ça doit être quelque chose quand même, ça. C'est quoi? C'est où? Enfin, et comment tu te dis pas, il n'y a pas un moment où tu te dis, mais je vais, enfin, ce truc est insensé. Enfin, c'est trop gros, je sais pas.
Alors, j'ai fait beaucoup de choses insensées, donc,
c'est vrai.
Ma première usine hydroélectrique en Californie, elle faisait 3 mégawatts ou 5 mégawatts, elle était tout petit. Une des dernières usines que j'ai faites avant qu'on vende ça, elle faisait 3000 mégawatts. Donc c'est des usines à gaz, en jeu de mots.
Ça c'était, d'accord, oui, ok. C'était aux États-Unis aussi ou c'était...
Aux États-Unis, oui. Donc si tu veux, j'ai fait des usines gigantesques, j'ai fait des usines très très grandes. Mais en même temps, il y a un côté magique dans les symboliques. En donné, on s'est mis dans la tête de faire une grosse usine. On voulait faire une usine au charbon dans le nord de l'État de New York pour servir la ville de Manhattan. Et on pensait qu'il fallait faire 700-800 mégawatts. Bon, pourquoi? Pour des raisons de transmission, de câbles électriques et de ficelles disponibles. Et je me rappelle un meeting avec mon équipe. On discutait tous ensemble. Le charbon était compliqué. L'usine coûtait très cher. Une usine au charbon coûte très cher.
À construire.
Et exploiter. Et on n'arrivait pas bien à passer dans nos chiffres. Donc on finit par dire, on voit pas comment ça passe, et puis une grosse usine de charbon, est-ce qu'on n'est pas déjà... on n'était pas du tout conscient que le charbon était un gros mot à ce point-là, mais on n'était quand même pas rassurés. Et on me donnait dans le meeting, on discute gaz. Parce que le gaz, c'est propre. Ça brûle, c'est propre, c'est bien. Et il y a un mec qui dit, pourquoi on fait pas du gaz? Ben, il dit, oui, mais est-ce que le gaz est disponible? Alors, non, pas trop, faut voir, etc., etc. Et d'un seul coup, on commence à inventer notre usine à gaz. Et en cogénération. Et à un moment donné, je dis, il faut lui donner 1000 mégawatts. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, pourquoi 1000 mégawatts? Mais je dis, parce que ça va être sur le plan marketing magique. Une usine de 1000 mégawatts, c'est 1000 mégawatts. C'est pas 1001, c'est pas 999, c'est 1000. C'est quand tu vas chez Leclerc et que tu achètes des spaghettis à 2,99$, là c'est l'inverse. Tu vois, tu mets le beau chiffre. Et du coup, on a fait une usine de 1000 mégawatts et c'est devenu un des grands symboles de l'Amérique. On l'a appelé Indépendance. Et c'était la première usine d'une taille pareille faite par un indépendant. Bon, c'était un peu compliqué, mais c'est des belles aventures, si tu veux.
C'est fantastique. Ouais. C'est vrai que c'est fantastique. Et alors, cette histoire, tu l'emmènes, donc tu le dis très loin, avec des un actionnaire qui est toujours la CGE, finalement, la Compagnie Générale des Eaux, qui à la fin est déjà Vivendi, d'ailleurs, je crois.
C'est resté Compagnie Générale des Eaux jusqu'en, je crois, 95, et est devenu Vivendi après que Messier soit arrivé. Et on a vendu en 2000.
C'est ça. Donc du coup, tu te retrouves avec donc les patrons de cette boîte qui est quand même une sorte de fleuron de l'industrie française, donc des gens qui sont extrêmement à la fois connus, exposés médiatiquement, probablement tous très intelligents également, et voilà. Finalement, indirectement exposés, tu les impressionnes, tu les intrigues quelque part, le fait de le côté être un peu aux États-Unis.
Je pense pas que j'impressionne grand monde, pour être franc. Tu vois.
Tu les intrigues alors peut-être.
Intrigué sûrement, oui. Peut-être inquiété d'ailleurs. Je pense que sans fausse modestie, j'ai inquiété des gens. Mais j'ai eu la chance, quand je suis à la Compagnie Générale des Eaux, assez rapidement me retrouver en face de Joigny, qui était un vrai mentor pour moi et qui m'a beaucoup permis d'évoluer et d'avancer. Et c'était vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et pour qui j'ai beaucoup de respect. Après, Joigny a pris sa retraite, a abandonné son siège à Jean-Marie Messier. Ce qui est une autre école, une autre formation. D'abord, Dejoigny était un énarque, un polytechnicien. Il avait quelques mines autour de lui. Messier, c'est un énarque, donc c'est pas les mêmes.
Oui, on passe de l'ingé un peu plus
buzzer. Tous des types super brillants. Là-dessus, faut pas déconner. Les gens qui disent ouais, c'est
peut-être
pas...
moins politique quand même le polytechnicien, non? Politicien.
Alors, je dirais que Dejoigny était vraiment un vrai politique.
D'accord.
Mais avec un style différent.
D'accord.
Bon, donc si tu veux, je me retrouve en face de ces beaux esprits-là. Esprit très bien fait, intelligence rapide, esprit de synthèse absolument faramineux, capacité d'absorption de dossiers effrayante. Donc, dans tout ce schéma-là, tu peux pas lutter. C'est-à-dire que si t'es une deux chevaux, tu crois après une Ferrari, tu vas pas arriver le premier, tu vois ce que je veux dire. Bon, moi je suis la deux chevaux, ils ont la Ferrari, donc il faut juste pas prendre les mêmes routes, pas se mettre sur les mêmes territoires et respecter quelques règles de base. La première règle, c'est jamais mentir, quoi qu'il arrive. Mais t'as pas à me dire les vérités avant l'heure, tu les dis quand c'est l'heure.
Mais il y a un moment aussi quand même par rapport à tout ça, toi t'es actionnaire de site,
oui,
en direct.
Absolument.
Je veux dire, t'as pas lutté donc sur le fait de devenir président de la Compagnie Générale des Eaux, parce que c'est pas le truc qui te faisait triper.
Non, ce serait pas arrivé.
Oui, ce serait pas arrivé, justement. Mais en revanche, t'as réussi à être aux côtés de toi en tant que personne, William Kriegel, aux côtés de la Compagnie Générale des Eaux, actionnaire d'un énorme producteur d'énergie
indépendante. Comme c'est l'entreprise que j'ai créée, c'est eux qui sont venus à mes côtés.
Oui.
C'est pas tout à fait pareil.
Je suis d'accord, mais je veux dire, il y a un côté où aussi, de temps en temps, tu peux te dire c'est peut-être plus smart, où tu as un côté un peu indépendant. En tout cas, c'est très différent. Je veux dire, en effet, tu ne luttes pas sur leur territoire.
Non, je ne lutte pas sur leur territoire. Sur leur territoire, je ne peux pas gagner, quoi qu'il arrive. Ils sont bien plus compétents que moi. Donc, il ne faut jamais être sur leur territoire. Il faut aller sur le tien.
Ouais.
Qu'ils viennent sur le tien, ça va très bien.
Et tu as créé le tien, en plus.
Oui, tu crées le tien. Donc, si tu veux, j'étais actionnaire minoritaire de mon affaire. Et ils sont actionnaires majoritaires. Donc, ils ont des droits et ça se respecte et ça se gère. Après, tu performes ou tu performes pas. Quand tu performes, t'es respecté et aimé. Quand tu performes pas, t'es jeté. Grosso modo, c'est à peu près aussi bête que ça. À un moment donné, on a été coté en bourse avec Sight. Pour des raisons très très spécifiques qui n'ont pas d'intérêt pour le moment, mais que je raconte dans le livre, mon cours de bourse qui était à 13-14 dollars est descendu à 6 dollars et s'est planté là pour 2 ans. j'étais mal. Et alors, donc, à Paris, c'était en période de transition avec De Joigny et Messier. Les gens autour de De Joigny disaient, ben, Criget, il est planté, il nous a planté, c'est la fin, c'est fini. Et moi, j'arrivais pas à passer mon cours. Parce que le marché avait perdu confiance. Pour des raisons politiques et objectives, c'était comme ça. J'avais rien fait de mal, mais...
Oui, tu parles un peu du trading aussi, voilà, notamment à ce moment-là, du fait que...
trading, mais après. Ah, okay. Mais en fait, j'avais rien fait de mal, mais le marché a perdu confiance. Quand le marché perd confiance, t'as pas besoin d'avoir tort ou raison, il a perdu confiance, point.
D'où la complexité d'être coté de temps en temps.
C'est une des complexités, c'est pas la seule. Mais donc, on décide avec mes équipes, il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'est de sortir de la bourse, parce que du coup, l'argent n'est plus accessible parce qu'il est trop cher. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous achète. Donc, on a cherché un investisseur. On a cherché un investisseur qui voulait bien reconnaître la valeur du total des actifs et non pas la valeur du cours.
Oui.
On a trouvé un japonais qui s'appelle Morabini, qui est une très très grosse entreprise japonaise, et qui a acheté le public, tout ce qui était coté. Oui. À 6 dollars l'action, ils l'ont acheté à 16. Ou à 15, pardon, excuse-moi. 15. Et en même temps, ils ont fait un investissement direct en augmentation de capital de 200 millions de dollars supplémentaires au même cours. Avant ça, Messier ne me connaissait pas. Après ça, il me connaissait.
Oui.
Parce que d'un seul coup, il s'est dit, bon, il y a un truc là. Donc, comme j'avais... Il n'y a pas de magie. C'est simplement que tu es dans un schéma, tu es enfermé. Il faut sortir du schéma, aller sur un autre schéma.
Oui.
C'est ça que j'ai fait.
Oui. Et du coup, cette relation avec Messier était très particulière parce que tu parles aussi dans ton bouquin de la fin de Sight en ce qui te concerne. Oui. Et ce qui te concerne. Qui a été très, très brutal, en fait. Hein.
Ben, en fait, si tu veux, on avait un programme d'investissement et de développement extrêmement important qui avait été approuvé par le board au mois d'août. Donc, on avait fait des engagements...
Août 2000, hein, on est.
Août 2000.
Ouais.
Et au mois de septembre, j'apprends par la radio ou un communiqué de presse que Messier avait annoncé dans une conférence d'analystes qui voulait vendre. Donc ça m'a pris au dépourvu, j'étais pas au courant, donc j'étais vraiment vexé d'abord. Ensuite, j'étais vraiment emmerdé, parce que j'avais des financements en cours, j'avais des très très gros projets, on avait 3 milliards de financements en cours.
C'est quand même 3 milliards
oui. De dollars, oui.
Oui.
Bon, donc si tu veux, ça m'a mis dans une position d'abord humainement, j'ai pris comme une vexation, à titre personnel. Ensuite, qui décide de faire ça, il a le droit, c'est un actionnaire a le droit de décider ce qu'il veut, entre guillemets, mais... Il avait qu'à me téléphoner, me dire, je fais ça, je suis désolé, c'est peut-être pas sympa, mais je fais ça. Il l'a pas fait, il l'a pris par la presse. Donc ça m'a pas bien été. Et mes équipes, bah, bien entendu, plus personne ne sait où il habite. Oui. Donc ça a entraîné une période difficile.
Oui, une perte de confiance potentiellement aussi vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la boîte. Oui, ouais, c'est compliqué. Ouais.
Banque,
ouais.
Etc. Bon. Donc ça a entraîné une période très confuse et très difficile où après beaucoup d'hésitation, j'ai décidé que je devais servir l'ensemble des actionnaires, c'est-à-dire nos amis japonais Morabini, Vivendi et moi, et mes partenaires. Et parce que le management avait des actions aussi. Et donc j'ai mis tout le monde dans la même poche et j'ai organisé une vente aux enchères. Voilà. Donc si tu veux, c'était pas le destin que j'avais imaginé de ma vie. Pour moi, j'avais monté l'œuvre de ma vie qui était cette affaire Sight et je pensais que c'était ma legacy, enfin tu vois. Ouais. Et puis paf, la chose trave s'ouvre, je perds. Alors j'ai pas tout perdu, hein, parce que je m'en suis bien sorti. J'ai très bien servi mes actionnaires et au finish, ma stratégie de mettre tout le monde ensemble a été payante. Et je considère que j'ai assumé mon rôle de patron d'une boîte et respecté le pouvoir et le poids des actionnaires, ce qui est normal.
Donc t'es enfin sorti en 2000 d'une boîte sans être endetté.
Ah, j'étais plus endetté depuis un moment.
Non, déjà. Mais je rigole. Mais toutes les boîtes d'avant.
Je suis enfin sorti. Et en 2000, je sors. Bon, tout ça prend un peu de temps, etc. Et j'avais des rêves de ranch depuis 10 ans.
Et permets-moi en préambule de lire quelque chose parce que c'est vraiment ce que tu viens de dire. Je te vois regarder. T'as mon temps, quoi. T'as du temps.
Ouais, ouais.
C'est un des accomplissements de ma vie. J'ai bâti et développé Sight que j'ai porté aussi haut que possible. Mais à la fin de l'histoire, Sight disparaît. J'ai transmis à des centaines de personnes ce que je croyais bon, essentiel et efficace, et notre aventure commune a sûrement marqué et éclairé la vie de nombre d'entre eux. Mais le vrai leg, mon véritable héritage, c'est d'avoir changé le rapport au cheval. parce que c'est un progrès immense et irréversible. Je ne sens faiblir ni mes forces ni mes convictions, mais je sais ce que c'est, précisément, le moment idéal pour penser à la pérennité de la sens, comme de mes valeurs. Cette aventure est plus grande que moi, il faut aussi qu'elle soit plus longue. Donc on va parler de cette deuxième vie après tout ça, la sens.
Alors en fait, si tu veux, c'est une deuxième vie, mais c'est une vie parallèle.
D'accord.
Parce que j'ai commencé la sens avec Sight. Donc en partant aux États-Unis, j'ai emmené le dossier de la sens avec moi. La sens, c'est un lieu, hein, c'est une maison avec un peu de terrain à Roche-en-Yvelines, c'est un très bel endroit.
Donc dans la forêt de Rambouillet ou dans ce coin-là.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Dans la forêt de Rambouillet, c'est un endroit qui est très beau et qui a plein de magie. Je l'ai acheté en 80 à Raymond Louis, le designer.
En 80, et, donc ouais. avant de partir aux États-Unis.
Oui, oui. D'accord. Et il y avait 22 hectares ou 23 hectares. Voilà. Aujourd'hui, on a 200 hectares et on a développé tout ça.
Et tu t'es un peu mis dedans, d'ailleurs, en l'achetant. C'était pas très simple, du coup, parce que c'était non, plus que ce que tu voulais.
J'avais pas les moyens de garder un appartement à Paris et ça. Je me suis mis dedans avec femme et enfant. J'avais pas d'argent pour faire les travaux. J'ai bricolé tout ça comme d'habitude et sans beaucoup d'état d'âme. Mais je suis très content de l'avoir fait. Et donc, aux États-Unis, aux États-Unis, tu vois, c'est comme une vie sous pression difficile. Tu perds une partie de tes valeurs, ou pas tes valeurs, mais tes accroches culturelles, etc. Tu as besoin de garder un point d'ancrage, si tu veux. Et j'ai gardé la sens comme point d'ancrage dans mon affectif. Et donc, j'ai pris l'habitude de voyager dans tous mes métiers avec toujours un petit dossier de la sens dans ma poche. Un petit truc de travaux, un petit truc de ceci, de cela. Bon. Et assez rapidement, j'ai pris conscience que ce lieu méritait de vivre et que pour faire vivre, il fallait donner une dimension économique. Ce que je crois est important dans les propriétés, si elles n'ont pas une dimension économique, elles ont du mal à survivre. Bon, le cheval était naturellement la réponse à ça. Donc, j'ai organisé la sens pour qu'elle puisse être gérée de façon professionnelle et économique sur le plan cheval. D'accord. Alors, j'ai donc commencé par importer des quarter horse, qui sont des chevaux américains, chevaux de cow-boy, fait une écurie de concours, et fait de la compétition western en France, ce qui était très sympathique, qui m'a beaucoup intéressé. C'est pas moi le compétiteur, parce qu'il fallait gagner, donc fallait envoyer quelqu'un capable de gagner pour moi.
ce qui est très différent, hein, du coup, pour ceux qui connaissent pas, moi je suis pas un grand expert de cheval, même si, il se trouve que pour une raison, très hasardeuse, j'ai un cheval avec un trotteur avec des copains depuis la sortie mes études, mais donc le quarter horse, donc le cheval de western, ça se dirige, ça s'apprivoise totalement différemment de ce qu'on fait en Europe ou ce qu'on faisait en Europe à l'époque.
Alors en fait, tu veux, il y a deux choses. Il y a l'éducation du cheval. Cheval s'éduque. Un cheval est un cheval. Donc quand tu approches en éducation, grosso modo, quand tu oublies la destination, l'usage, tu veux faire du dressage, tu as besoin de certains outils ou pas, tu éduques le cheval à la base de la même façon. Les chevaux sont tous les mêmes, entre guillemets. Ils ont des caractéristiques physiques différentes, donc des capacités de compétences différentes, mais sinon ça s'éduque de la même façon. Et les chevaux ont tous à peu près le même behavior, comme on dit, la même
attitude, comportement.
Même comportement. Bon. Donc le quarter horse, c'est un cheval que j'aime parce que c'est un cheval de cow-boy. Déjà, ça fait partie de la mythologie. Ensuite, c'est un cheval qui est assez froid. Et qui a du jus et qui a de l'impulsion, donc c'est un cheval très agréable. Bon, donc j'ai ramené des quarter horse en France, j'ai fait un peu d'élevage, j'ai fait un peu de compétition western, ça m'a pas amené très loin, ça a été sympa mais pas amené très loin, et assez rapidement je me suis intéressé à la base de la relation au cheval, c'est l'éducation. Alors pourquoi ? Parce que quand on veut faire de l'équitation de loisirs, qu'on veut aller se promener en forêt, en fin de compte, c'est bien plus dangereux que de tourner en rond dans un manège. Oui. En forêt, il y a plein de choses imprévisibles qui vous arrivent de façon non définie. Un chien qui sort d'un fossé, un plastique,
la météo, une racine.
Oui, enfin, il se passe plein de choses en forêt. Et donc le cheval a plein d'occasions d'avoir peur. Donc si on ne sait pas comment réagir dessus, etc., ça ne marche pas bien. Et moi, je me suis interrogé de savoir pourquoi est-ce que les gens qui voulaient faire de l'équitation extérieure ne dressaient pas leurs chevaux et n'éduquaient pas leurs chevaux, alors que quelqu'un qui veut sauter des barres, faire du concours, etc., paye pour éduquer son cheval. Si tu as un cheval de sport, tu vas payer quelqu'un pour te le préparer, etc.
Un entraîneur.
Quand tu as un cheval de compétition, un cheval de loisir pour aller faire de la forêt, non, tu t'achètes un cheval pas cher et en plus tu payes pas. Et c'est toi qui es dessus et c'est ta vie qui est en risque. Donc c'est un peu un non-sens et j'ai trouvé ça bizarre. L'autre chose, c'est que les courants sociétaux fait que on est passé d'une équitation militaire pour des besoins de l'armée, du transport, à une équitation de loisirs pour des gens qui veulent se faire plaisir. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes normes, mais la tradition militaire reste puissante dans l'équitation française classique.
Oui, c'est la base de l'éducation d'un cheval, c'était l'éducation militaire. Du coup,
Alors il y a eu des tas d'évolutions, mais en gros c'est ça. Et du coup, les gens ont commencé à prendre conscience que le cheval était un être vivant, respectable, qu'on pouvait aimer, qui demandait un peu d'attention et que comprendre comment il fonctionnait avait un sens. Donc je me suis intéressé à ça. Et je me suis dit, en fin de compte, ce qu'il faut, c'est éduquer les gens, éduquer les chevaux. Et les chevaux apprennent aux gens à s'éduquer.
Oui.
Bon, donc je me suis intéressé à ces sujets-là. J'ai d'abord commencé par m'intéresser à voir qu'est-ce qu'il y avait comme méthodologie. Parce qu'il se trouve des individus qui sont brillants et qui sont des maîtres.
Oui.
Mais un maître ne peut enseigner qu'à 5 personnes à la fois. Donc ça ne fait pas une diffusion de masse ni large. Et tu ne modifies pas les choses de cette manière-là. Donc j'ai cherché à voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme méthodologie pédagogique pour enseigner ça, pour faire comprendre aux gens comment les chevaux se comportaient, pourquoi, sans avoir besoin de livre, de sans dire de son bouquin.
Sachant qu'en gros, ce que tu dis là, c'est qu'il est aussi important d'éduquer la personne qui monte que le cheval lui-même. C'est pas juste t'arrives, tiens, et le cheval, il a été éduqué, prends-le.
Non, parce que
éduqué,
le cheval bien éduqué, si tu le donnes à quelqu'un qui fait pas les bons trucs, le cheval, il redevient comme il était avant.
Quelqu'un de mal éduqué, finalement.
Exactement.
D'accord.
Donc, je me suis intéressé à ça, et j'ai découvert aux États-Unis un cavalier intelligent qui avait une méthode, qui s'appelle la méthode Parelli, et qui avait mis en format pédagogique toute une méthode.
D'accord.
Et j'ai trouvé ça très intéressant, je suis allé voir, etc., etc. J'ai fini par prendre une licence pour l'importer en France. Donc, je l'ai importé en France, ça a duré 2 ans. Ça n'a pas duré longtemps pour 2 raisons. La première, c'est que c'était très, très, très western et très marketing américain, et que là, pour les Français, c'était too much. Et la deuxième, c'est que le Parelli en question, qui manque pas de talent, avait un ego plus grand que la montagne, et que un jour, je me rappelle avoir discuté avec lui, ça résout toute la situation, et je lui dis, Pat, vous expliquez ça dans vos livres sur les chevaux, sur pourquoi. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un universitaire ou un scientifique ou un veto qui valide ce que vous dites. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi faire? Ben, il dit, parce que valider des assumptions, c'est pas idiot.
Oui.
Il m'a dit, mais si je le dis, c'est que c'est vrai.
D'accord.
Je lui ai dit, merci, au revoir. Donc on s'est séparés, mais j'avais appris ce que je venais d'apprendre. Et là, j'ai commencé à écrire une méthode en français. Enfin, pas moi qui écris, je fais écrire aux autres, parce que d'abord, je ne sais pas bien écrire. Et ensuite, c'est pas mon job. Donc on monte des équipes, etc. Et on a bâti une méthode en France qui s'appelle la méthode Lassens.
Qui est hyper reconnu hein, quand même aujourd'hui. Enfin,
oui,
non, je veux dire, c'est quelque chose. Quand on connaît pas le cheval, c'est pas un petit truc.
Attends,
quoi.
La méthode Lassens, on a vendu plus de 50 000 méthodes depuis qu'on a mis ça en place. 50-60 000, en fait, je sais même plus les chiffres, c'est considérable.
Et donc avec des événements où au début vous étiez quelques centaines, quelques dizaines, aujourd'hui maintenant vous êtes des milliers. Enfin, c'est vraiment.
On a propagé. Donc si tu veux, dès le début, on a créé cette méthode. On l'a fait avec de l'audiovisuel et du bouquin, du papier et des vidéos. On a enseigné, on a fait une école. J'ai fait une école dès la première année.
D'accord.
En réalisant que si j'avais pas des gens qui avaient appris chez moi pour aller le faire ailleurs, on propagerait jamais l'information. Parce que sinon, on resterait en vase clos, si tu veux.
Sachant que c'est autre chose, on n'en a pas parlé, mais tu as aussi Lassens dans le Montana aux États-Unis.
Oui, mais alors ça, c'est différent, parce que Lassens dans le Montana aux États-Unis, c'est un ranch d'élevage. On élève des vaches. C'est un grand ranch, c'est un truc absolument extraordinaire et magique. C'est le rêve des rêves.
Je croyais qu'il y avait une école là-bas.
Si, il y a aussi une école.
Oui.
Mais là, j'ai repris la méthode Lassens, qui a une partie de son origine aux États-Unis,
venue
en France, que j'ai écrit en France et réécrit complètement. Je l'ai retraduit en anglais.
Oui.
Et j'ai fait un partenariat avec l'université d'État de Montana. Et on a organisé un Bachelor of Science de Natural Horsemanship.
C'est ça, hein, donc t'as carrément un bachelor.
Et là, j'ai 3 enseignants qui sont mes employés, qui enseignent la méthode Lassens à l'université.
Incroyable.
Et donc, on a 110 étudiants dans le programme.
Qui viennent de tous les États-Unis, c'est incroyable.
Donc c'est un beau programme, c'est très joli si tu veux.
Ouais.
Donc en fait, Lassens est développé au fur et à mesure, toujours en parallèle du reste. C'est pas venu en séquentiel, tout est en parallèle. Enfin, je voyageais en Chine, j'avais mes dossiers de Lassens avec moi. Je voyageais en Amérique, j'avais mes dossiers de Lassens. Et donc, on a bâti Lassens au fur et à mesure, jusqu'au point où on est aujourd'hui. On a un contenu de grande qualité. extrêmement diversifié dans ses méthodes de, d'expression. Je ne sais pas si on dit ça d'ailleurs. Tu vois, on a un MOOC.
Oui.
On a mis un MOOC en ligne. On a un e-campus, donc du e-learning. On a des livres. On a des cours. On a des écoles, trois écoles différentes. On a des stages professionnels. On a des stages pour des pour amateurs. On a un DU avec Paris Descartes. Tu vois, enfin, on a une activité considérable et je le gère comme une activité professionnelle, bien que ce soit une activité à mission complète. C'est-à-dire qu'on a une mission, c'est de développer, de vulgariser, de partager la relation homme-cheval, d'améliorer le bien-être du cheval et donner à l'homme du plaisir.
Comment tu passes de... Tu dis ça avec tellement de passion et... Alors, on sent que dans Sight, il y avait beaucoup de passion, hein, mais comment tu passes de cet énorme truc site industriel, politique, avec voilà, à la sens, qui est quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus que tu maîtrises totalement. Alors, et très bêtement, spirituel. Hein.
Alors, je ne sais pas comment dire ça, mais je ne vois pas de différence. C'est des modes de pensée. C'est-à-dire qu'en réalité, j'essaie d'avoir des modes de pensée longs. Quand je regarde la sens, je regarde okay, où je vais être dans 5 ans ou dans 10 ans. Quand tu développes des projets, tu regardes loin. Un projet, ça se regarde sur 30 ans. Un projet industriel. Donc tu fais des projections sur 30 ans qui sont toutes fausses, mais ça ne fait rien, tu les fais de bonne foi.
Oui.
Et tu as des tas de gens qui projettent. Donc en fait, tu construis toujours dans le long, tu ne construis pas dans le court. Quand tu construis un immeuble, tu construis pour qu'il tienne 50 ans, tu ne construis pas pour qu'il tombe l'année prochaine. Donc le raisonnement est toujours dans le long. Et après, tu es dans le quotidien. Et là, tu essaies de gérer le circus, si j'ose dire.
Oui.
Et tu essaies de gérer dans le quotidien. Donc, tu es dans l'exécution pure. Le quotidien est toujours plus difficile que le long. Parce que le long, c'est plus conceptuel, oui. C'est plus intello, oui. Etc. Mais le long est le porteur. Donc, tu mets tes équipes, tu mets l'ensemble des projets sur du long. Tu crées de la ligne d'horizon. Tu regardes l'horizon quand tu marches. Tu ne regardes pas tes pieds, tu regardes l'horizon. Si tu regardes tes pieds, tu te casses la gueule.
C'est bien ce qu'on t'apprend dans...
Oui.
Dès que tu fais du vélo, tu regardes bien devant. Dès que tu fais toute la moto,
Tu regardes les oreilles de ton cheval. L'autre il baisse la tête. Tu regardes droit devant toi, le cheval il passe. C'est donc si tu veux, ton regard doit porter l'horizon, doit porter loin. En portant loin, il donne une dimension à ta vie parce que tu peux mettre ton horizon un peu où tu veux. Hein. C'est un cursus flexible. Donc tu peux jouer avec. Et donc le cheval, tu veux t'apporte une humanité parce que c'est du vivant. Un respect parce que l'autre, il est bien plus gros que toi, bien plus grand, il a bien plus de muscles et il a une belle élégance, c'est un bel animal puissant. Et si tu te trompes avec lui, il saura te le dire.
Oui.
Donc ça t'apprend l'humilité, ça t'apprend le respect. Il y a un échange affectif assez profond. Et en même temps, le cheval et le lien à la nature, c'est un lien à la nature extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, 80% de la population française vit dans des villes. Et il y a 100 ans, ça devait être 20 ou 30%, 40%, je ne sais pas combien. Donc le monde paysan a été effacé, assez dramatiquement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui les paysans ne sont plus aimés, parce que ce que je trouve honteux. Mais le monde paysan s'efface, les urbains deviennent la population dominante, ils ne rêvent que de nature et s'enferment dans le béton.
Non mais c'est clair. C'est clair.
Et ils mettent des salades sur les toits des immeubles.
Ou des fêtes. Et dans les parkings de plus en plus.
Oui.
Non mais c'est.
Bon. Ouais. Et donc si tu veux, il y a un vrai problème. En plus, la société est de plus en plus virtuelle. On est de plus en plus dématérialisé. Donc on est voué à péter les plombs, quoi.
Je voulais venir justement. Je reviens là-dessus sur deux points. Sur c'est exactement ce que tu dis là, mais. Tu parles d'horizon et d'horizontalité. T'en parles aussi dans ton bouquin. Alors, l'horizon sur deux aspects, mais toi, chez toi, t'es dans le temps long, contrairement à une vogue du moment assez impressionnante sur Instagram, le temps court, très très court d'ailleurs. Moi, j'essaye d'aller à l'encontre de ça avec ce podcast. Tu vois, je demande un long moment à mes invités parce que je pense que le temps long, c'est quelque chose sur lequel tu te poses, tu te projettes, tu comprends. Mais t'es aussi sur l'horizon... ou l'horizontalité dans tes rapports avec les gens. Et ça, c'est quelque chose que je partage tellement et que j'aime beaucoup et que tu expliques bien hein, mais partout dans chacune de tes usines, la compréhension du quotidien de chacun partout dans ta vie. Je crois que c'est peut-être quasiment même au rapport au cheval. C'est juste se dire, tu ne vis pas dans la verticalité. Hein.
Non, parce que d'abord, je pense que tu as un meilleur échange avec les gens dans l'horizontalité. Qu'ensuite, tu peux être leader, mais tu n'as pas un être vertical pour ça.
Mais c'est très moderne, c'est intéressant comme approche. Ça ne l'était pas du tout. Tu l'avais conceptualisé déjà, je veux dire, dans les années 80 ou dans tes usines, c'était quelque chose que tu voyais déjà?
Alors, honnêtement, je n'ai rien conceptualisé avant de le faire, je l'ai vécu.
Ouais.
Mais j'ai toujours pensé loin, j'ai toujours pensé grand, j'ai toujours pensé comme ça, ça c'est sûr. Mais après, j'ai développé au fur et à mesure.
C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Avant de te quitter, j'ai deux, trois questions.
D'accord, vas-y.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ton bouquin, c'est vraiment penser loin et penser grand. Moi, je trouve que c'est un talent incroyable qu'on ressent chez toi. J'aimerais juste que tu me parles deux secondes, parce que ça m'a fait rêver de tes road trips avec tes potes. Tu les fais toujours déjà en moto?
Ouais, mais un peu moins. Parce donc que les potes changent, parce qu'il y en a un qui est un peu malade, parce que l'autre, je sais pas quoi, pas bon.
Et tu partais hein, vraiment comme tu le faisais quasiment à pied, hein, à Paris-Marseille.
À 50 ans, je me suis réveillé, je me suis dit, bon, j'ai arrêté la moto, j'ai fait un voyage en moto dans ma vie, avant, j'avais pas le permis, et après, je n'ai pas repris la moto. Parce que c'était pas une destination, c'était une aventure. Puis à 50 ans, ça me prend et je me dis bon, l'Amérique, j'y vis, j'aime. Les Rocheuses, c'est magique et c'est très très beau. Il faut parcourir en moto. Donc je décide qu'il me faut une Harley parce que ça peut pas être autre chose. Je peux pas être en Amérique et monter sur une moto
qui est pas, ouais,
non, c'est pas possible. Pas du tout. Et j'embarque mes copains, mon frère, et je dis voilà, on va faire un road trip. Et du coup, chaque été, on passait deux semaines. Sur nos motos, avec uniquement, on partait d'un point donné et une destination générale.
Petit sac à dos, c'était vraiment.
Ouais, enfin minima.
Ouais.
On dormait dans un petit motel en cours de route.
T'avais pas d'étape, hein.
Jamais. Jamais. La moto, c'est un truc de liberté. Donc, si tu veux, tu peux pas être en liberté si le soir, faut arriver quelque part. Parce que t'es en pression. Tu dis, il me reste 50 km à faire, il m'en reste 100 à faire, etc. Alors que si tu roules, et quand tu arrives 5-6 heures du soir, tu commences à te dire, où est-ce qu'on va s'arrêter? Et là, tu commences à regarder ce qui se passe. Alors, des fois, ça, tu trouves, des fois, tu trouves pas, peu importe, mais la liberté, c'est ça. L'autre élément en moto, c'est que tu es en groupe, mais en fait, tu es tout seul. Parce que tu parles avec personne. D'abord, même si tu as quelqu'un derrière toi, tu n'entends rien de ce qu'il raconte, c'est pas la peine. Donc, tu es tout seul, tu peux réfléchir, tu peux penser. Tu es nouveau dans la nature avec les odeurs, les humidités, les atmosphères et tout ça. La chaleur, le chaud, le froid, tout ce que tu veux. Donc, t'es en pénétration, t'es vraiment proche de la nature. Alors, t'as un bruit d'enfer avec la Harley que je trouve assez sympathique, mais c'est personnel. Et t'as entre les jambes un espèce de camion. Tu roules pas vite en moto. Moi, j'aime pas rouler vite. La vitesse, c'est pas mon truc. Ça marche pas avec mon focus. Donc, je roule pas vite. Mais tu cruises, tu vois, tu te laisses aller, tu roules à 60, 80 et c'est le bonheur à état pur.
Je crois que tu prends un avion ce soir pour aller aux États-Unis. Je vais te télécharger un épisode de Génération Do It Yourself avec Fred Jourdain qui refait des Harley. Ça te plaira, je suis sûr.
D'accord.
Comme ça, je gagne un nouvel abonné, c'est bien. L'autre question que je voulais te poser, c'est sur si t'avais l'occasion de retrouver William à l'âge où tu rejoins ton père. À ce moment-là, tu pouvais lui donner un message. Lui dire un message, qu'est-ce que tu lui dirais?
Lui dire merci, tu m'as beaucoup appris. Et je le pense vraiment du plus profond de mon cœur. Et je lui ai dit ça quand je l'ai quitté, et il n'a pas bien compris, il a compris plus tard, parce qu'on est resté très intime et très proche, on a beaucoup parlé de ce que je faisais et tout ça. Non, il m'a beaucoup appris, il ne m'a pas appris en étant un éducateur, il m'a appris en étant un modèle.
C'est ce que tu dirais à ton père. Et qu'est-ce que tu dirais à William, pardon, j'ai mal posé ma question peut-être. Si tu pouvais lui dire avant tout ça, avant toutes ces aventures, si tu pouvais lui glisser un petit truc à toi-même.
Waouh. Si j'étais William et
là tout de suite, t'avais l'occasion de te dire 30-40 ans en arrière, revenir.
Avance, regarde l'horizon, te fais pas chier. Et de toute façon, quand tu marches, tu regardes loin. Quand la vie est difficile, l'instant est toujours difficile, mais si tu regardes plus loin, ça rend l'instant moins difficile. Le court est pénible, le long est pas pénible. Donc, dès l'instant où ça devient un peu pénible, là, regarde plus loin. Et du coup, c'est le pas suivant qui compte.
C'est tellement vrai, c'est tellement beau. Très bien. Et toute dernière question, pourquoi tu cours, William?
Ah non, je cours pas. Moi, je fais pas de course à pied, je fais pas de sport, je fais du vélo.
Pourquoi t'avances dans la vie?
J'avance dans la vie parce que quand j'étais ado et enfant, j'ai eu des crises existentielles assez stupide mais assez importante. J'ai découvert que la mort qui m'a frôlé plusieurs fois n'était pas un truc qui me faisait peur, mais j'ai eu très peur de mourir avant d'avoir fait ce que j'avais à faire. Ça, ça m'a beaucoup inquiété. Et alors, je me suis demandé, donc, qu'est-ce que j'avais à faire? Oui. Question légitime, étant catho, etc. Et j'ai pensé que ce que j'avais à faire, c'était de transmettre. Et donc, mon objectif dans la vie, c'est de faire des choses que je peux transmettre et qui peuvent servir à d'autres. Donc, quand je fais Site, j'ai en fait transmis, non pas ce que je croyais être une grande entreprise, mais j'ai transmis à d'autres les moyens d'apprentissage et d'expérience et des moyens, parce que j'étais assez partageur sur le plan économique. Quand je fais la sang, j'ai transmis à des millions de gens une manière différente de regarder le cheval, de vivre avec le cheval. Ça pour moi, c'est un de mes plus grands accomplissements dans la vie. Et maintenant, je convertis, je fais évoluer la sang dans une notion de fondation. On vient de mettre en place l'Institut pour l'homme et le cheval, qui est une fondation. Et ça va permettre d'ouvrir et d'amener encore d'autres gens et de partager tout ça, ce qui est merveilleux.
Bon, je te remercie parce que c'est vraiment une super aventure que tu as vécue. Depuis tout ce temps que tu racontes bien, donc je vous recommande tous de lire À mon allure de chez Actes Sud, que je mettrai le lien dans ma bio, dans le descriptif de l'article du post. Et puis je mettrai tous les endroits où on peut te joindre, surtout par le biais de la Sense, hein, je crois.
Oui, on peut te joindre, mais je suis joignable, il n'y a pas de problème.
D'accord. Et puis sinon, par mon biais, vous m'écrivez, je forwarderai à William. Et voilà, je te remercie pour ton temps. Je vous demande à tous de pas hésiter à partager ce podcast à ceux qui aiment le cheval de votre entourage, à ceux qui aiment le gros business, les belles aventures, la Harley peut-être. Et puis à noter ce podcast 5 étoiles. Je te remercie, William.
Mathieu, merci beaucoup et puis à bientôt.
Et bon vol de retour aux États-Unis. J'ai passé un super moment. J'espère que ce sera le cas de tout le monde. Salut.
Ok, salut.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.